Chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Galère 88.4 et Radio Mono à Châlons-Champagne, bonjour. Voilà, ce soir on entame une nouvelle émission et on va parler, comme on le fait tous les ans, d'un festival de cinéma qui a lieu dans la Marne, en Champagne, dans le 51. C'est un festival qui s'appelle War on Screen. Et qu'est-ce que ça veut dire, War on Screen? Ça veut dire la guerre sur l'écran. Alors, je n'ai pas fait exprès, cette émission a été enregistrée le jour même ou de la veille de l'attaque par Israël de troupes venues des pays alentours, arabes, chiites, je pense notamment à l'Iran, les Hezbollah et le Hamas. Au festival War on Screen, on n'a pas parlé de cette partie du monde, alors que les autres années, ça a été le cas. Mais effectivement, c'est tombé hier soir, donc n'allez pas y voir une quelconque analogie, hein, bien entendu. Cela dit, c'est vrai que c'est un festival qui essaye de montrer la guerre sous toutes ses coutures. Alors, dans ce festival, on passe des films qui sont anciens. Des fois, il y a des vieux films italiens des années 30, ou pas forcément spécialement que italiens, mais enfin bon, comme en Italie, ils savent très bien faire des films, c'est souvent qu'on passe des vieux films italiens. Et puis, il y a aussi des choses qui sont plus contemporaines, avec des films récents qui ont été faits cette année ou l'année précédente. On a même droit à des avant-premières un peu partout dans le monde pour nous montrer que la guerre est encore présente. Donc c'est très intéressant parce que quand on va au festival War on Screen, il suffit qu'on y aille pendant 2 ou 3 jours et qu'on voit 5 ou 6 films et tout de suite on baigne dans ce bain-là. Et ça fait réfléchir, ça fait profondément réfléchir à la guerre. Alors bien sûr, il y a ces deux grandes guerres mondiales qui nous fascinent et qui nous ont toujours un petit peu intrigués parce que nos grands-parents les ont subis. Je pense à la guerre 14-18 et puis pour ceux qui sont plus jeunes, uniquement la guerre 39-40, 39-45. Ces deux guerres-là, elles sont toujours présentes au festival War on Screen. Il y a toujours des films autour de ces deux guerres-là. Et parce que c'est Dieu sait s'il y a eu beaucoup de films qui ont été faits dessus. Faire un film, c'est comme écrire ou chanter ou dessiner ou peindre. C'est un exutoire. On ne dit pas pour rien que le cinéma, c'est le 7e art. Effectivement, faire un film, ça permet aussi laisser s'évanouir ses peurs et ses angoisses et de marquer sur un support tous les affects qu'on peut avoir par rapport à des événements passés qui nous touchent plus ou moins de près ou de loin. Donc, et ce festival est très émouvant, tous les festivals de cinéma sont émouvants, mais celui-ci l'est beaucoup parce qu'il y a énormément d'émotions à travers tous ces témoignages liés aux guerres. Alors, la cérémonie d'ouverture, c'était mardi 3 octobre, ça a commencé mardi, et à 18h30, au Théâtre La Comète, Philippe Bachmann, directeur général et artistique du festival, a proclamé le début de la cérémonie d'ouverture. C'était la 11e édition et l'objectif principal a été vite annoncé. Il fallait dépasser la barre symbolique des 20 000 visiteurs pour le 10e anniversaire du festival. Et donc, il faut se souvenir d'une chose, c'est que le festival n'avait accueilli que 7500 visiteurs lors de sa création il y a 10 ans. Dont 11 ans même. Donc, on peut dire, et c'est ce que Philippe Bachmann a fait remarquer à tout le monde, qu'il y a effectivement beaucoup de progrès puisque les chiffres ont beaucoup augmenté. Mais ce n'est pas encore devenu encore un festival qui est, on va dire, incontournable. On peut encore faire beaucoup mieux en matière d'accueil des gens. Je pense qu'il y a un potentiel très important en matière d'accueil du public. Mais tout ça, ça va avec la notoriété. Je pense qu'au niveau médiatique et relationnel, il y a vraiment beaucoup de progrès à faire pour le festival War on Screen, qui est encore un petit festival qui se confine à un niveau, on ne va pas dire municipal, mais départemental. Et alors que la thématique en est originale, je crois qu'il n'y a pas d'autres festivals de films sur la guerre en France. Et je crois qu'il faut aller chercher ailleurs en Union européenne pour en trouver d'autres. Et donc je pense que c'est un festival qui mériterait, et ça c'est normal, c'est le coup, il suit la chronologie tout à fait normale d'un festival et de son histoire, il mériterait davantage de rayonnement au niveau européen. Je pense que c'est très important puisque nous sommes tous concernés par les guerres collectivement. On en parle d'ailleurs souvent beaucoup en Union européenne lorsqu'on parle de créer un bouclier européen pour nous protéger ou lorsqu'on parle d'une défense commune européenne. Et donc, rien qu'à ce niveau-là, ça mérite de s'étendre. Après, il n'y a pas, bien sûr, que l'Europe et l'Union européenne. Il y a beaucoup d'autres États dans le monde, notamment, je pense, aux États africains. Et l'Afrique est toujours représentée au Festival War on Screen. On en reparlera pour ce qui est de cette année. Alors, voilà, donc c'était le souhait de Philippe Bachmann. Et puis... un souhait que peut faire toute personne qui observe un petit peu ce qui se passe dans la vie culturelle marnaise et même régionale, si on raisonne au niveau Grand Est. Le Festival War on Screen, c'est une valeur sûre qui mérite de s'exponentialiser, d'accueillir bien davantage de visiteurs et d'avoir plus de rayonnement. Et donc forcément, je pense que avec les progrès qu'il y a eu depuis 10 ans, on ne peut que continuer à faire des progrès et qu'il va certainement y avoir de nouvelles stratégies qui vont se déployer petit à petit. C'est un rendez-vous quand même, si on fait un peu le bilan de ce rendez-vous, qui a permis au fil des années de donner à la Marne une identité artistique qui va de pair avec l'identité historique de la région qui autrefois avait été sinistrée par la Première Guerre mondiale. Et rappelons-le, le Festival War on Screen n'est pas né dans la Marne pour rien. Il est né ici parce que tout le monde sait que pendant la guerre 14-18, ce département-là a été plus, encore davantage que d'autres départements, victimes de la Première Guerre mondiale. Les tranchées, c'était il n'y a pas très loin de Châlons-Champagne. Châlons-Champagne fait partie des villes qui ont été bombardées, tout comme Reims, juste à côté, ou Épernay, encore à côté. Et donc... il y a beaucoup de sites de guerre. Le tourisme lié à la guerre est assez développé ici. Et donc, c'est tout à fait logique qu'un festival comme War on Screen ait lieu ici. À titre d'anticipation, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de touristes américains qui viennent pas seulement pour le champagne, mais aussi pour le tourisme de guerre, parce que beaucoup ont fait soit la libération de la France en 45, soit le secours aux alliés en 1918. Il y a beaucoup d'Américains dont les ancêtres ont une tombe pas très loin d'ici. Donc il y en a beaucoup qui se déplacent. En même temps, ils en profitent pour faire du tourisme œnologique. Et pourquoi pas tripler l'objectif de leur visite au mois d'octobre quand il fait si beau et les faire venir aussi pour le festival War on Screen. J'allais dire que... le festival n'a pas changé. L'identité de ce festival, c'est pas d'être un festival qui se confine à des professionnels de la culture et des professionnels notamment du cinéma ou de la réalisation. C'est aussi un festival qui est très ouvert au multigénérationnel. Par exemple, cette année, comme toutes les autres, il y a des jurys de jeunes, des jurys de lycéens et d'étudiants. L'année dernière, on avait à Radio Galère et Mède Résistance interviewé des jeunes lycéens qui avaient participé au jury lycéen. Ils avaient chacun exprimé ce qu'ils ressentaient face à leur film préféré et ils avaient chacun expliqué ce que leur apportait le festival. Donc on reconduit et en ce moment j'ai pris comme support pour faire mon émission la cassette de War on Screen qui paraît tous les jours et qui est rédigée par des étudiants, je crois, de Sciences Po, Sciences Po Reims. Donc, ou d'autres établissements de la région. Peut-être que ça a un peu changé cette année. Je me renseignerai. Mais en tout cas, voilà, il y a un journal publié chaque année avec des critiques très intéressantes des différents films. Donc l'invité d'honneur de cette 11e édition, j'en parle maintenant, c'est Volker Schlondorf. Qui est Volker Schlondorf? C'est quelqu'un qui était très marqué par la Deuxième Guerre mondiale parce qu'il est né en 1939. Donc il est né au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et il est allemand, donc il était en plein, situé en plein milieu du théâtre que fut la guerre. Et il est réalisateur de films qui ont eu, beaucoup de succès, comme le film Le Coup de Grâce, Le Faussaire, Diplomatie ou encore Le Tambour. Il a été Palme d'Or et Oscar du meilleur film étranger en 1979. On va faire un petit tour autour de l'œuvre de Volker Schlöndorff. Il faut savoir que Volker Schlöndorff était présent jeudi 5 octobre. Il est venu présenter son film Diplomatie, donc on va en parler tout de suite. Et le film a été diffusé à 19h et à 20h30, Volker Schlöndorff était là pour en discuter avec les spectateurs. Donc ça devait être un moment très intéressant. Personnellement, je n'ai pas pu y participer, et je pense que ça devait être assez intéressant. Son film Diplomatie est un film qui nous parle de la France. Ça paraît marrant, il est allemand et son film parle de la France. Pourquoi ? Parce que à l'époque où Paris a été occupé, et il est parti d'une histoire vraie pour faire son film, il y avait, on projetait de détruire certains monuments parisiens. Alors, j'ai pas vu le film, je pense qu'il devait sûrement y avoir la Tour Eiffel dedans. Peut-être, je n'en suis pas sûre à 100%, il faudrait voir le film pour ça. En tout cas, c'est l'histoire que raconte Volker Schlöndorff. Il est parti d'un fait divers et il l'a filmé. Et il nous raconte, alors le film date de 2014, donc c'est un film qui est pas tout récent, mais qui est quand même contemporain. Donc c'est le général von Schlotitz, qui se prépare sur ordre d'Hitler à faire sauter Paris, et un consul suédois, Nordling, essaye de rencontrer le général pour le convaincre de renoncer à exécuter l'ordre qu'il aurait reçu d'Hitler. Donc je pense que ça doit être très intéressant de voir ce film, comme ça en même temps ça permet de voir Paris, et ça c'est bien. Après le film, Volker Schlöndorff était là et il a présenté des choses autour de son façon de travailler. Alors, il s'est confié sur son travail de préparation avant le tournage, comment il fait son analyse de scénario, comment il s'approprie le texte, le personnage, quel travail de la voix, du corps, tout ce qu'on ne voit pas parce que nous on est derrière l'écran et parce que le travail est déjà fait. Et il nous raconte ses petits secrets de cinéaste. Donc je pense que ça devait être très intéressant, ça a été peut-être filmé. Malheureusement, je ne pense pas que sur le site internet de Warren Screen, je le rappelle, Warren Screen a son propre site internet, allez voir sur Google, comme ça vous aurez accès à tous les journaux et vous saurez tout ce qui s'est passé cette année et les années précédentes. Je ne pense pas que ce genre d'intervention de cinéaste soit filmé et retransmis en podcast sur le site. Il faut quand même essayer quand même d'aller voir, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Cette intervention de Volker Schlöndorff devait être intéressante. Il a fait d'autres films, ils ont tous été diffusés cette année, enfin pas tous, il y en a 4 qui ont été diffusés parmi les meilleurs. Je fais un petit tour du propriétaire rapidement. Il y a eu ce matin Le Tambour. Donc Le Tambour, c'est un film qui date pas du tout de la même époque, qui est bien plus vieux, qui date de 1979. Mais si on fait la différence entre celui qui a été fait en 2014, Diplomatie, et celui qui a été fait en 1979, Le Tambour, on se rend compte que Volker Schlöndorff est comme les grands enfants, c'est quelqu'un qui n'a pas vieilli. C'est quelqu'un, il est toujours aussi, son regard est toujours aussi pertinent et jeune entre 1979 et 2014. Je m'explique, 2014, c'est quand même... il faut le faire pour faire un film sur cette thématique-là. On sent que c'est quelqu'un qui est un petit peu comme d'autres grands personnages de l'histoire, savent toujours voir les choses avec optimisme. Et même quand tout est perdu, que ça paraît fou et culotté, savent faire les choses quand même quand il faut absolument le faire pour que la vie reprenne le dessus. Ça, c'est le genre de personnes qui sont très très rares. Par exemple, je citerai autour de ça, ce sujet-là, je citerai Pablo Picasso, qui a expliqué que il fallait réussir sa vie et savoir avoir du talent de peintre, c'était savoir peindre comme un enfant. Et lui, qui avait fait les Beaux-Arts et qui avait appris toutes les techniques de dessin ou de peinture possibles et imaginables, a su retomber en enfance de manière très subtile. Ça ne voulait pas dire qu'il ne travaillait pas ou qu'il était feignant, mais simplement, il a su arriver à peindre comme un enfant. Garder son âme d'enfant, c'est réussir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, garder son âme d'enfant ? C'est, et là je vais me permettre de faire une comparaison avec un autre film que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a un petit peu choqué, enfin qui m'a un petit peu assombri, mais après j'ai compris un peu le message du metteur en scène, qui lui aussi est quelqu'un qui a certainement, malgré le message de son film, une âme d'enfant aussi, et il nous fait un bon clin d'œil, et je l'expliquerai tout à l'heure. C'est très important de voir les choses un peu comme Volker Schlöndorff les voit. Voyez un peu, dans le tambour, on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. En plus, on n'est pas n'importe où. On est dans un pays qui est particulièrement marqué par la guerre et par les conflits ethniques. On est sur le territoire de Danzig, un territoire qui est très controversé. Les Allemands le veulent, les Polonais le veulent. Il y a au milieu de tout ça des ethnies moins nombreuses, moins importantes en nombre, qui ne savent pas trop s'y retrouver, mais qui veulent quand même garder leur identité. Et donc, lorsque le territoire de Danzig passe aux Allemands et part de la main des Polonais, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui est très bien filmé, quelque chose d'historique, c'est cette fameuse attaque, cette fameuse riposte des Polonais qui sont enfermés dans la poste polonaise, puisque en fait, à Danzig, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la ville de Danzig a été occupée par les Allemands, qu'est-ce qui s'est passé ? Les Polonais se mettaient d'un côté. Ils avaient leur propre staff, leur propre fonctionnement, et puis les Allemands de l'autre. Et donc les Polonais avaient leur propre poste. C'était la poste. Il y avait une poste polonaise qui s'occupait du courrier des populations polonaises. Et ça a cohabité pendant un petit moment, jusqu'au jour où, à la poste polonaise, les Polonais, plusieurs Polonais sont allés s'enfermer dans la poste et ont combattu contre les Allemands. Alors, il y a eu des ripostes, ils ont été bombardés. Alors, forcément, les Allemands étaient plus forts. C'est eux qui ont gagné. Et suite donc à la prise de ce dernier bastion polonais, le territoire Danzig, la ville de Danzig, est passée aux Allemands. Et donc, ça raconte cette histoire-là parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit dans cette ville de Danzig. Et un petit garçon dont le papa, pardon, est allemand, et l'oncle polonais. Donc il a une maman qui est mariée avec l'allemand, et puis qui en même temps est amoureuse du polonais. Ils ont une relation, et en fait le vrai papa du petit garçon qui est tambour, c'est celui qui est polonais. Et donc il vit comme ça entre ses deux papas et puis sa maman, et c'est un petit garçon qui naît au moment où la guerre commence. Et donc ce petit garçon-là, il n'a pas envie de grandir parce qu'il voit que des choses horribles autour de lui. Donc forcément, et puis en plus, il est beaucoup couvé par sa famille qui veut pas qu'il soit trop conscient de ce qui se passe. Et donc ce petit garçon traverse. C'est un petit peu le Pinocchio polonais, on va dire. C'est un petit garçon qui cherche à toujours à conserver la magie à tout prix. Et donc ce petit garçon-là, il est souvent, il traverse plusieurs périples, et pendant le film, il va perdre plusieurs personnes qu'il aime. Il va d'abord y avoir sa maman qui va mourir, puis ensuite, après sa maman, ça va être son vrai père, c'est-à-dire son oncle, celui que tout le monde fait passer pour son oncle. Et puis il va y avoir aussi son père après. Et ce petit garçon là il veut pas grandir, il garde toujours son tambour avec lui, et il est très intéressant. En fait, on sent bien que je pousserai plus loin l'analyse si je revoyais le film, parce qu'il faudrait quand même que je le revoie, mais c'est un film qui mérite vraiment qu'on en fasse une analyse très approfondie, parce que on est à la fois en fait dans l'inconscient du metteur en scène, dans son inconscient personnel, mais en même temps on est aussi dans l'inconscient collectif, parce que l'inconscient collectif, collectif, lui aussi, ne veut pas voir. Et l'inconscient collectif cherche absolument et à tout prix à fermer les yeux, à ne voir que ce qui est esthétique et que ce qui est beau, et à conserver, à mettre en avant la magie plus qu'autre chose. Et donc dans ce film, c'est très très fort. On sent aussi que le metteur en scène, qui est quand même assez lucide, a créé une distorsion au sein de son esprit à lui. C'est-à-dire qu'il est conscient du fait qu'il y a cet engouement pour la magie, cette envie de ne pas grandir, et puis d'un côté, et puis de l'autre, cette volonté de voir les choses telles qu'elles sont. Et le moment ultime du film, c'est lorsque le petit tambour jette son tambour sur la tombe de son papa, qui a été fusillé à la libération par des soldats. Et il cherche à grandir absolument. Et donc c'est ce que nous essaye de nous montrer Volker Schöndorff. Il essaye de nous montrer que c'est très très dur de faire comme Picasso et d'arriver à peindre comme un enfant en toute quiétude lorsque le droit n'est pas respecté. C'est pour ça que le droit est très important à respecter, c'est ce que nous montre ce film. Dans ce film où il y a la guerre partout, où on tue tout le monde, eh bien, où tout le monde couche avec tout le monde et où on tue tout le monde tue tout le monde, eh bien, parce qu'en plus le film commence avec la guerre 14-18, il continue avec la guerre 39-40. Donc on voit que de la guerre tout le temps, parce que la grand-mère du petit garçon, elle rencontre son mari qui est pourchassé par des soldats pendant la guerre 14-18. Et donc, dans cette vie où il n'y a que de la guerre tout le temps, eh bien, le petit garçon, dans un assaut désespéré, essaye à tout prix, dès sa naissance, de rester dans la magie, de fermer les yeux sur ce qui se passe. Donc ça nous fait beaucoup réfléchir. Et c'est pour ça que je disais, pour arriver à faire comme Picasso, qui a raison, pour arriver à mûrir en restant un enfant, eh bien, en gardant son âme d'enfant, pardon, eh bien, parce que garder son âme d'enfant, ça ne veut pas dire être un bébé ou vouloir faire ses caprices. C'est juste savoir conserver la magie, être serein, être positif. Et voir ce qui est essentiel dans un dessin, par exemple, ou dans d'autres choses. Eh bien, pour ça, il faut être dans un monde où le droit est respecté. C'est pour ça que c'est si grave de ne pas respecter le droit, parce qu'on porte atteinte à l'intégrité des autres, et des uns et des autres, et de soi-même. Et donc, pour moi, c'est un peu ce qu'essaye de montrer Warren Screen. Warren Screen essaye de montrer aux individus que la guerre, c'est quelque chose qui n'est pas positif, parce que ça fait du mal aux uns et aux autres, et ça les empêche de garder leur âme d'enfant. Or, si le monde perd son âme d'enfant, on tombe dans un monde très noir, comme celui du film dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai vu, et que dont je vais parler tout de suite. On en reviendra à Volker Schöndorff après. C'est un film qui s'appelle The Survival of Kindness. C'est un film qui a été fait par un réalisateur australien. Ce film nous montre l'horreur, enfin, ce que pourrait être le monde dans quelques années si on continue à faire la guerre et à polluer. Ça se passe en Australie, dans des beaux paysages australiens, ou en Tanzanie, et dans le sud de l'Australie, là où il y a le désert. Et au début du film, on voit une femme de couleur. Elle est d'origine, je crois que c'est du Congo, elle est congolaise, je crois, l'actrice. Elle est une très très bonne actrice, vraiment. Et on la voit, elle est. Alors le monde, en fait, est devenu complètement invivable, parce que tout est pollué, les gens ne peuvent pas sortir dehors, et on ne peut pas évoluer autrement qu'en portant un masque à gaz. Donc les gens ont tous des masques à gaz. Et donc, dans ce film-là, on voit au début du film, il y a des petits chefs de guerre qui cherchent à dominer et qui obligent tout le monde à travailler dans des usines qui polluent beaucoup. En travaillant dans ces usines-là, on tombe malade, on tousse et on meurt. Et on prend une maladie au contact de certains métaux. Et donc en fait, dans ce film, ceux qui commandent sont des monstres qui violent, qui tuent, qui coupent les mains des gens, qui les pendent. Enfin, c'est un monde qui est laissé à une qui est laissé tout seul, abandonné à une barbarie innommable. Et donc, alors on voit que le metteur en scène s'est laissé aller. Alors, on sent l'évolution quand même du cinéma. Avant, d'abord, on n'avait pas de réalisateur australien. Donc, c'est une curiosité ce film parce que ça nous vient d'Australie. Il est quand même allé à Cannes. Hein. Et puis en plus, dans ce film, on voit des scènes qui sont très, 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 très dures. Et ça nous montre qu'on a évolué parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que les metteurs en scène d'aujourd'hui, qui percent aujourd'hui, sont des metteurs en scène qui ont vu beaucoup de mangas et puis des metteurs en scène qui ont, ou alors qui ont vu beaucoup de jeux vidéo. Alors, il faut voir les jeux vidéo auxquels jouent les enfants aujourd'hui. C'est des jeux vidéo où c'est très trash. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de cruauté et de barbarie. Il y a des horreurs. On voit des enfants de 5 ans qui savent très, très bien manier la manette de jeu pour tuer les autres ou voire même torturer. Il y a des jeux comme ça. Souvent, c'est assez clandestin. Mais les enfants, ils ont tous accès un jour ou l'autre. Donc, bon, Rolf de Heer, qui est le metteur en scène, qui a fait ce film-là en 2022, n'en est certainement pas son premier film. Il n'est pas non plus de la toute première jeunesse. C'est pas un réalisateur 30 ans qui a vécu la période manga et jeux vidéo. Mais je pense qu'il doit être au courant de ce qui se passe. Il a dû très certainement lui aussi être confronté à ces nouveaux médias qui ne font pas trop de quartier dans la visualisation de l'horreur. Et ça se ressent dans son film. Donc on voit des mains coupées, on voit des gens qui sont pendus de partout. Et l'héroïne du film, elle ressemble beaucoup à ce mythe, cette femme préhistorique. Enfin, on a tout fait dans le film pour la maquiller pour qu'elle lui ressemble, parce que par ailleurs l'actrice est très jolie. Elle ressemble beaucoup à l'archétype de Lucie qui serait la première femme qu'on aurait découverte dans le désert et qui serait notre mère à tous. Donc moi je l'ai vu comme ça. Après c'est mon interprétation du film. On a eu à la fin du film le metteur en scène Rolf de Heer qui a été en interview. Alors bien sûr il n'était pas là, lui il était en Australie, il a veillé jusqu'à 1h du matin pour pouvoir discuter avec nous, et donc il a expliqué des choses sur son film qui ont permis de comprendre certaines choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas pu lui poser toutes les questions qu'on voulait. Cela dit, on voit bien que ce metteur en scène pose un regard qui a beaucoup d'acuité sur ce que pourrait devenir notre monde, avec beaucoup de cruauté, parce que je veux dire, couper des mains, bah, on a vu il n'y a pas si longtemps que ça, que dans certains pays, certains groupes d'individus étaient capables de faire ce genre de choses, ou de couper des têtes et se filmer avec, et de filmer les scènes. On sait aussi que de toute façon, en ce qui concerne la pendaison, depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, c'est toujours arrivé ce genre de choses. Il suffirait d'un petit glissement pour qu'on tombe dans ce genre de barbarie. Donc il faut absolument lutter contre. C'est pour ça que d'ailleurs le conflit qui est né, le conflit qui s'est aggravé cette nuit me laisse entendre que effectivement nous sommes dans une période de difficulté par rapport à cet objectif de paix. Et en tout cas, toujours est-il que Rolf de Heer nous met en garde. Mais en même temps, dans son film, qui est très très noir, très très glauque, eh ben, il y a un espoir sur cette femme qui fait penser à Lucie. C'est une femme qui d'abord, on la retrouve pour la torturer, on l'a enfermée dans une cage. Et on l'a laissée toute seule dans une cage enfermée dont elle ne peut pas sortir, en plein milieu du désert, complètement soumise à l'amplitude thermique. Donc, ce qui veut dire que la nuit, elle a très très froid. Et le jour, elle a très très chaud. Et donc cette femme, qui est une femme fantastique dans le film, du moins, je pense que l'actrice va être très sympa aussi dans la réalité, c'est une femme qui a beaucoup de volonté et beaucoup de persévérance. Elle arrive à ouvrir la cage, elle ouvre la cage. Et donc, elle ouvre la cage et puis elle sort. Et puis après, elle voit ce qui se passe dans le monde. Elle voit ces gens qui sont masqués, qui portent des masques à gaz. Et elle les voit faire. Elle voit ce qu'ils font sur les gens. Il y a plein de gens qui sont complètement fous parce qu'il y a tellement de barbarie et d'horreur que les gens deviennent fous. Elle rencontre un peu de douceur en rencontrant un jeune garçon et sa sœur qui sont d'origine hindoue, qui sont très beaux et qui ont l'air très évolués. Éveillée, mais elle n'arrive pas à les garder parce qu'ils veulent la suivre alors qu'elle va voir ce qui se passe dans l'usine. Voilà. Et de désespoir, après avoir fait tout un périple dans l'horreur, elle retourne dans sa cage et elle s'y laisse mourir. Alors il y a une chose très intéressante, c'est que quand elle était dans sa cage, elle voyait des grosses fourmis en Australie. Il y a des très très grosses fourmis, c'est des grosses mécaniques. Quand on les filme de très près, on a l'impression d'avoir affaire à de véritables engins qu'on voit dans les films de science-fiction. Vous savez, ces espèces de monstres à moitié robot, moitié animal. Et c'est vraiment impressionnant de les voir. Ils ont des grosses cuirasses avec des pattes de partout. Et en fait, le réalisateur Rolf de Heer a filmé de très près les fourmis, ce qui fait qu'on les voit en gros plan et on voit ce qui s'y passe. Les plus petites, celles qui sont les plus faibles, se font, et ça c'est inéluctable, elles se font attaquées par les plus grosses qui les mangent. C'est la nourriture des plus grosses. Et les plus grosses les déchiquettent, elles les coupent en petits morceaux et puis elles les mangent. Eh bien, ce qu'on voit de cette dame qui s'appelle Lucie, notre mère à tous, c'est ça, elle se laisse mourir et elle aussi, elle se fait manger. Donc en fait, ça fait vraiment penser à quelque chose, ça fait penser au fait que, ben voilà, il faut protéger notre mère, la terre, pour ne pas qu'elle se laisse aller au désespoir et qu'elle finisse par se laisser mourir comme ces petites fourmis qui sont mangées par les plus grosses. Parce que c'est la loi de la nature, les faibles finissent toujours par mourir, il n'y a que les plus forts. Alors le film, c'est aussi un appel, je pense. Moi, ce film m'a beaucoup inspiré. Alors je ne sais pas du tout quelle est la religion de Rolf de Heer, s'il est chrétien ou s'il a une autre religion. Bon, en tout cas, de toute façon, toutes les religions, sans exception, sont toutes dans l'inconscient collectif. Donc, on y a tous plus ou moins accès de manière plus ou moins détournée ou directe. Et en fait, ce film sonne un peu comme un appel à l'avènement de l'ère chrétienne, hein, tout autant qu'un avertissement. Il nous dit « Faites attention à la mère », qui est célébrée d'ailleurs chez les chrétiens, parce que c'est la Vierge Marie, enfin celle qu'il ne faut pas abîmer ou ternir. Le message, c'est que c'est la terre qu'il ne faut pas abîmer ou ternir, qu'il ne faut pas polluer ou assaillir sous les bombes. Et donc il y a ce message là et en même temps il ne faut pas lui donner du désespoir et du chagrin aussi. Et puis en même temps il y a cette affaire, il nous dit quand même, c'est quand même attention. Elle est toujours là, son symbole est toujours là. Il faut y faire attention pour éviter de se retrouver dans une situation telle que celle que j'ai montrée dans le film. Mais en même temps, il faut faire très attention parce qu'il y a en ce moment, nous sommes à un tournant de l'histoire de l'humanité. Un tournant qui pourrait, d'ailleurs, il y a beaucoup de livres apocalyptiques ou prédictifs qui en parlent, ce qu'on appelle l'avènement de l'ère chrétienne. Qu'est-ce que c'est l'avènement de l'ère chrétienne ? C'est le moment où on tourne la page et on est, parce que l'ère chrétienne, ça fait plus de 2000 ans qu'elle dure. Elle a fait beaucoup de bien dans le monde puisqu'elle a permis à tout un chacun et de se pardonner les fautes des uns et des autres et ses propres fautes. Donc, à être moins sévère envers soi-même et les autres pour qu'il y ait un petit peu moins de cruauté. Elle a servi à ça. Elle a servi aussi à être indulgent et à avoir des valeurs chrétiennes de compassion, de respect, d'amour de son prochain, dans la limite et dans la mesure du possible, puisque forcément, on n'est jamais arrivé à un résultat parfait et pour cause. Mais en même temps, il nous dit, attention, cette ère-là, elle est finie. Ça, ce message-là qui est arrivé, ça nous a protégés pendant plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, attention, vous voyez bien qu'on arrive à autre chose. Et on le voit bien à travers le cheminement chronologique des événements qui, ces dernières décennies, ont marqué le monde. J'allais dire que depuis... depuis 1945, petit à petit, on sent que la cruauté et la, l'aspect très animal de la communauté des humains, parce qu'on est aussi on est des animaux, nous aussi on est organique. On n'est pas que cérébral. Eh bien, cet aspect animal est avec toute l'importance que peut avoir la cruauté dans cette composante-là, est en train d'essayer de se venger et de vouloir reprendre le dessus. Ce qui est un peu logique, puisqu'en fait, c'est la nature qui veut ça. La nature est inéluctable. Elle a ses propres lois. Et c'est ce que nous montre le réalisateur Rolf de Heer. Lorsqu'ils nous montrent les fourmis, il y a leur copine qui est plus petite qu'elle et elles ont faim. Pas de quartier, on n'a pas pitié, on tue, on déchiquette la fourmi la plus faible et on la mange. Voilà, parce que il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de compassion ni d'amour du prochain. On a faim et on veut survivre. Un peu aujourd'hui, on a l'impression que notre civilisation aborde une ère où on retourne justement à cette primalité qui vient de notre nature animale et organique. Ce n'est pas tout à fait négatif, mais moi je trouve que ce regard de Heer est très très pertinent. J'ai beaucoup aimé ce film pour ça, bien que le film soit très dur à voir, parce que comme tout le monde meurt dans le film, il n'y a pas vraiment... ça finit pas comme dans La Petite Maison de la Prairie avec un message positif. Bien au contraire, il nous met face à notre destin. C'est la mort et puis l'extinction si on n'apprend pas à être plus fort. En fait, le message de Heer, c'est nous dire qu'il faut faire comme Lucie dans le film. Bon, elle se laisse aller à la fin, mais quand même, pendant tout le film, elle est persévérante, c'est elle qui survit, elle arrive toujours à récupérer des affaires pour survivre, elle survit à tout, et elle n'était pas obligée de retourner dans la cage, c'est elle qui l'a voulu. Autrement, elle aurait gagné, alors qu'elle était toute petite et toute seule et toute faible contre ces hommes très cruels qui tuent tout le monde. Eh bien, elle gagne quand même. Et le message de Heer, c'est ça, c'est de dire... Eh bien, nous devons apprendre à être plus forts. Donc voilà, je trouve son message est très intéressant. J'aurais bien aimé en discuter avec lui, ou peut-être qu'un jour quelqu'un en discutera avec lui et qu'on l'entendra en parler. Mais je me suis longtemps demandé, je pense, enfin pour moi, il nous parle vraiment de l'avènement de l'ère chrétienne, de nous dire ça y est, il faut qu'on arrête de se faire. On s'est protégé avant Jésus et les religions. Notre humanité dans sa préhistoire s'est protégée avec des gris-gris et des amulettes. Après, il y a eu la notion de Dieu qui est apparue. On a évolué, progressivement grâce à cette image de Dieu que l'on voulait rejoindre. On a réussi à faire quelque chose de bien de notre civilisation. Puis après, il y a eu Jésus. Enfin, après, il y a eu il y a eu d'autres religions, grandes religions, bien sûr. Mais après, il y a l'ère chrétienne qui a commencé, qui est une ère où on a appris à être indulgents les uns envers les autres et à se protéger et à protéger les plus faibles. Et aujourd'hui, on aborde quelque chose de nouveau, ou peut-être que cette magie-là qui est liée aux faits religieux, comme nous le dit Marcel Gauchet dans son livre Le désenchantement du monde, a fini de jouer un rôle. Peut-être que maintenant il faut qu'on aborde autre chose, où on doit comprendre que la magie ne vient pas de l'extérieur, mais qu'elle est en nous. Et donc cette magie qui est en nous, eh bien il faut qu'on puisse la faire fonctionner. C'est le même message que nous dit Pablo Picasso. Il nous dit apprendre à peindre comme un enfant, c'est tout un art, et on a réussi sa vie si à la fin de sa vie on a gardé son âme d'enfant, si on a appris à peindre comme un enfant. De grands artistes, de grands hommes pensent tous la même chose, hein, que ce soit des politiques, là je pense au général de Gaulle qui a quand même réussi en gardant son âme d'enfant à lutter contre le nazisme et à contribuer à la fin du nazisme, entre autres. Il n'y avait pas que lui, mais il y a contribué largement. Il a cru en quelque chose qui paraissait impossible, il a osé. Je pense à des grands artistes comme Yehudi Menuhin, tous ces gens-là qui savent cultiver leur petite étoile intérieure. Et c'est un petit peu le message de IS qui finalement, donc, comme je vous le disais, est un message extrêmement positif, puisqu'il nous dit, ben voilà, on est tous issus de la mère, la matrice, Lucie, qui est très forte. C'est toujours elle, fait partie de la nature aussi. Elle gagnera toujours. Et il faut savoir conserver son âme d'enfant. Et après, on a les autres films qui nous disent, il faut savoir conserver son âme d'enfant. Et conserver son âme d'enfant, ça veut dire être capable, eh ben, avoir un ego. Avoir un ego et s'aimer soi-même. Et cultiver sa bonne étoile. C'est ça qui est très important. Avoir une âme d'enfant, c'est pas faire des caprices d'enfant gâté ou avoir tout ce qu'on veut. C'est ça, tout simplement avoir un ego et être capable de le mettre en avant pour se dire c'est moi le meilleur. C'est ça qu'il faut faire, en fait. C'est ce que les grands artistes, Picasso était connu pour être quelqu'un qui avait un ego démesuré. J'ai lu plusieurs biographies de lui, autour de lui. Tout le monde dit, beaucoup de gens, parce que bien sûr, on met en avant les valeurs de partage et de solidarité et de penser aux autres comme des valeurs importantes parce qu'on est civilisé et parce que c'est le fruit de plusieurs siècles de judéo-christianisme. Mais cela dit, Picasso avait raison parce que lui, il a fait une œuvre exceptionnelle et ceux qui autour de lui le critiquaient en disant qu'ils pensaient qu'à lui n'ont rien fait de leur vie. On parle plus d'eux, si ce n'est pour les critiquer dans des biographies de Picasso. Donc je pense que c'est un peu le même message c'est un peu ce message-là qu'essaye de nous faire passer notre cher cinéaste australien, Rolf de Heer. C'est un message d'espoir et qui nous dit regardez-vous vous-même et conservez votre âme d'enfant et continuez, apprenez et aimez-vous. Plus que tout au monde. C'est très très important, c'est un message très important de ce film-là qui signe un peu l'avènement de l'ère chrétienne, quelque part. Quand je dis l'avènement de l'ère chrétienne, c'est l'avènement de tout ce qui a pu être greffé autour du personnage de Jésus et en matière institutionnelle et doctrinale qui ne venait pas forcément de lui mais qui était simplement une interprétation de son message. Voilà, et il nous dit ça parce qu'on est nature. Et dans la nature, ceux qui survivent, c'est ceux qui ont un ego. Donc, par exemple, je donne toujours l'exemple du cheval de course. Je connaissais un cheval de course qui, loin d'être allé à l'abattoir, a fini sa vie en étant étalon dans toutes les écuries d'un département parce que c'était un cheval qui a vécu beaucoup plus longtemps que d'autres chevaux, parce que c'est un cheval qui avait beaucoup flatté son ego. Il paraissait très jeune, il était très fringant parce qu'il avait beaucoup flatté son ego en gagnant beaucoup de courses, alors il avait été beaucoup félicité. Et donc, c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, qui a été en très bonne santé. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc voilà le message de Heer. Moi j'ai beaucoup aimé ce film là, même s'il est négatif. Et pour en revenir, alors c'est pour dire que Le Tambour est un film qui est très déroutant, pour en revenir au Tambour, qui est un film lui de Schlondorff. Et ce film là, Le Tambour, nous montre à quel point vouloir à tout prix rester dans l'ignorance de ce que c'est que se battre et de ce que c'est que la souffrance peut donner quelque chose de difficile à vivre. Et c'est le cas du petit tambour qui vit beaucoup de choses mais qui en fait traverse finalement plusieurs années de guerre sans vraiment voir ce qui se passe autour de lui, quoi. Donc en fait ce film là est un film qui dure très longtemps, il dure pratiquement 3 heures et je ne peux pas en faire une critique trop avancée parce que je l'ai vu qu'une fois et c'est très difficile d'en parler parce qu'il fait appel à plein de choses, mais je pense que c'est un film important de toute façon qui se tient. Dedans, il y a toujours un petit peu d'absurde et de grotesque. Et puis en même temps, ouais, il nous fait relativiser ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45. On voit des choses qui sont très dures, mais en même temps, il y a toujours un petit clin d'œil un peu cocasse, comme pour nous dire, bon ben voilà, finalement c'est passé, c'est plus très grave, voilà. C'est un film déroutant. Je pense que c'est un film qui mériterait qu'on en parle un peu plus. Donc voilà, j'ai pas vu les autres films de Schoendorf, mais j'ai bien l'intention d'aller les voir tous, parce que je pense que ce metteur en scène n'a pas fait n'importe quoi. Voilà. Donc voilà pour les films dont j'avais envie de parler. J'ai vu aussi un autre film. Je vous en parle tout de suite. Qui s'appelle La zone d'intérêt. Alors ce film-là, c'est un film de Jonathan Glazer qui est assez récent. Il a été fait par aux États-Unis, il a été fait par Jonathan Glazer, qui est un metteur en scène à cheval entre les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne, et qui nous montre la vie de Rudolf Hess et de sa femme Hedwig, qui habite à côté d'Auschwitz. S est le commandant d'Auschwitz, où on sait qu'il s'est passé des horreurs, et ils ont une maison qui jouxte le camp d'Auschwitz. Donc ils sont vraiment à côté, ils sont collés. Alors ils sont collés, leur maison dont la femme de S a fait un endroit bucolique et idyllique, avec un jardin, un bassin, une piscine, etc. Est un lieu paradisiaque, qui est collé, littéralement collé, au camp d'Auschwitz. Alors on entend des mots, on entend des phrases, comme par exemple un des fils de la maison S entend le soir un des gardiens du camp dire converser avec un autre gardien. Il demande ce qu'a fait un prisonnier, qu'on entend hurler, et le deuxième gardien dit qu'est-ce qu'il a fait ? Il a volé une pomme. Noyez-le ! Voilà ce qu'entendent les enfants quand ils écoutent un peu trop ce qui se passe à côté du camp. Il y a des cendres, vous savez pourquoi il y a des cendres qui arrivent, qui tombent sur le jardin des S. Vous savez aussi pourquoi on entend tous ces bruits et ces massacres. Et en fait, la famille S vit dans tout ça comme si de rien n'était. Donc c'est un film qui est très très dur à voir, qui laisse beaucoup réfléchir, qui nous fait penser à notre vie tous les jours, où effectivement nous aussi on s'endort à côté des camps où sont torturés des gens et où des gens ne sont pas heureux. Notamment, je pense à des gens qui dorment dehors, ou des gens qui n'ont pas eu la chance d'être aussi heureux que d'autres. Et je me dis que voilà, c'est un film qui nous montre qui filme une situation extrême, en nous montrant que, en fait, cette situation extrême, on la vit aussi au quotidien sans s'en rendre compte. Voilà. Bien, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'on en a assez entendu. On va se passer une petite musique à la fin. Et puis, je referai peut-être un autre War on Screen la semaine prochaine, parce que je vais voir d'autres films et j'en parlerai à mes auditeurs. N'oubliez pas d'aller regarder sur le site de War on Screen, et venez l'année prochaine à la 12e édition. Vous verrez, on n'est pas déçus. À très bientôt, chers auditeurs. Passez une bonne semaine.
Gaza, flaque de soleil, klaxon et motobécane. Les filles se voilent, touristes en Bermuda. Sur son trône, en transat, partout les portraits du roi. J'fouille dans mes poches, châle d'Iram le Kawa. Du souk à la Médina, pyramide d'orange et de pastèque. Chameaux en plastique, djellaba made in China. Odeur de kiff et bouffe de rue, sardines frites à thé ou coca. Et sous les stores, les superstars, Vashkiri versus Shakira. le trottoir, les cigarettes à l'unité. Aux terrasses, les cireurs de souliers. Les gosses chapardent et les chats apparaissent. Hey, par ici, petit taxi. Des piles de toile, on tire le fil. Ça coupe, pot de graisse et bain d'huile. Ça ponce et ça soupe. Ici, rien ne se perd et tout se répare. On remet à flot les épaves. Sur la place, à côté, les épices aux étals. Et par terre, c'est les puces. Un enjoliveur, port USB, deux fourchettes, une antenne de télé. Ici, t'as la terre entière en pièces détachées. Là, les autos frôlent, les mules et les rues s'en mêlent. Bah bouche bée, je reste là, les pieds dans la soupière, la poussière dans les yeux. Des milliers de têtes et des chibanias. Je rêve de midinette aux jupes légères que le vent soulève. Mais du minaret s'élève l'appel à la prière. Son tapis, au roue d'un Mercedes, une petite canne ronge un morceau d'os. Mur crasse couvert de graffes, au ciel les Boeing font des coups de griffes. Les cigognes fiantent sur les clochers, les moutons pendent à leurs crochets. Je tiens ta main du bout des doigts, se rouler un patin c'est la chouma. On n'a pas vu de désert, pas vu de vrais chameaux. La lune se lève, Assalam sera mon dernier mot.